Adrien Magnolet.
Bonjour et bienvenue dans Tribu. Ces 20 dernières années, le nombre de suicides a baissé de 40% en Suisse, si on ne prend pas compte les suicides assistés. Alors une baisse réjouissante, même si les dernières statistiques disponibles montrent que le taux de suicide ne baisse pas chez les jeunes, au contraire. Alors longtemps, on n'osait pas parler du suicide en famille, dans les médias, comme si la mort auto-infligée était tabou. Mais cela a changé. Parler fait désormais partie de l'arsenal de prévention. Et d'ailleurs, pour son congrès annuel, le groupe d'action et d'accueil et d'action psychiatrique, le GRAP, a d'ailleurs choisi comme thème le suicide, osons en parler. Bonjour Sophie Lechet.
Bonjour.
Vous êtes la coordinatrice de l'association romande Stop Suicide et vous allez participer justement à ce congrès du GRAP qui aura lieu les 2 et 3 mai prochains. Je donnerai un peu les détails pratiques en fin d'émission pour celles et ceux qui sont intéressés. Alors pourquoi Sophie Lechet? Pendant longtemps, on disait qu'il ne fallait pas parler de suicide. Ça se passait, il y avait des taux importants en Suisse, hein, mais il ne fallait pas en parler. Comment l'expliquer?
Alors, le suicide est effectivement tabou, mais depuis bien plus longtemps qu'il y a 20 ans. Donc on parle d'un tabou sociétal qui est important, qui est aussi religieux. C'est-à-dire que pendant longtemps, les personnes qui se suicidaient pouvaient pas, par exemple, être enterrées dans les mêmes cimetières. Donc le meurtre de soi était considéré un peu comme un meurtre, donc en soi comme un crime. Donc quelque part, la personne avait trop transgressé et on pouvait pas parler de ça aussi, peut-être parce que quelque part, l'homme s'arrogeait le droit de se tuer, alors que c'était Dieu qui lui donnait la vie. Donc il y avait, je pense, un tabou qui est ancré, en fait, depuis très longtemps dans la société. Du coup, ne pas en parler, ça venait de ça, et ça venait aussi de l'idée que si on en parlait, on pouvait contaminer, un peu comme une maladie, le suicide serait une maladie qui serait contagieuse.
Or, c'est pas le cas, ou c'est quand même le cas? Il y a le fameux effet Werther, hein. Voilà, le risque qu'un suicide, un exemple de quelqu'un qui se suicide, donne l'idée à quelqu'un d'autre qui risque de se suicider.
Alors, c'est un effet qui pose question, évidemment, à la prévention du suicide, parce qu'on sait que le suicide, il faut en parler pour plusieurs raisons, notamment parce que ça permet de trouver de l'aide, parce que ça permet de lutter contre les idées reçues et de faire en sorte que les personnes qui traversent une crise suicidaire se sentent moins seules, et ça permet aussi d'agir, c'est-à-dire de sortir du problème individuel et d'arriver à voir le suicide comme un problème de santé publique. Donc ça, c'est vraiment le côté pourquoi c'est bien d'en parler, je pourrais développer après. L'effet Werther, c'est un effet qu'on observe par rapport aux médias, qui est réel, c'est-à-dire que quand on va parler d'un suicide, notamment d'un suicide d'une personne à laquelle on peut beaucoup s'identifier, en mentionnant de façon répétée, notamment la méthode ou le lieu de suicide, on sait que ça peut provoquer ce qu'on appelle un effet d'imitation. Werther, ça vient des souffrances du jeune Werther, donc le roman de Goethe, qui avait été suivi par une vague de suicides de jeunes hommes en Europe. On observe encore cet effet, il y a plusieurs études qui le montrent, et c'est pour ça qu'on recommande, nous, aux journalistes, une gestion prudente de l'information sur les suicides, pour éviter cet effet d'imitation qui n'est pas automatique, il y a souvent beaucoup de choses qui se conjuguent. Cela dit, en gros, notre conseil, c'est on peut parler du suicide, mais il faut faire attention à comment. Mmh. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des informations qui vont avoir un impact préventif et d'autres qui vont avoir un impact plutôt incitatif. Et donc, nous, on a un programme où on regarde aussi un peu comment la presse romande finalement parle du suicide et comment est-ce qu'elle peut être aussi plus préventive, notamment en diffusant les ressources d'aide, en parlant du suicide, en montrant que c'est une crise, en parlant de témoignages de personnes qui s'en sont sorties. Donc, il y a aussi plein de manières de faire de l'information préventive. Mmh.
J'ai vu que notamment, je crois que le journal 20 minutes, chaque fois qu'il y a un article qui traite de suicide, il y a tout le temps un petit encadré. Vous avez des envies suicidaires et ils donnent des numéros. Ça, ça peut être une des techniques de mettre un petit encadré s'il tient à la personne que ça émeut ou touche, ou que ça touche une corde sensible, et ben, elle trouve une ressource directement en presse dans l'article.
Tout à fait. Bah, c'est une des méthodes qui est recommandé par, notamment par l'OMS, c'est-à-dire d'associer toujours, quand on parle du suicide, de parler aussi des ressources d'aide, parce qu'on ne sait pas en fait dans quel état se trouve la personne qui lit. C'est toujours la question.
Mais c'est compliqué. Vous dites, là, il y a l'effet Werther, surtout pour les personnes connues. Il y a eu des cas récemment en Suisse, on peut penser à Benoît Violier, Olivier Gagnat, des personnalités publiques. Il y a eu une énorme incompréhension. Et c'est pas facile parce qu'on peut pas ne pas en parler, parce que ça pose des questions existentielles très fortes. C'est pas juste du voyeurisme.
Effectivement, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a un discours d'alliance avec les médias, c'est-à-dire qu'on leur dit pas « n'en parlez surtout pas, vous allez provoquer 1000 suicides », on dit « comment est-ce qu'on peut en parler ?» Effectivement, un suicide suscite toujours de la sidération, de l'incompréhension, de la culpabilité chez les proches ou de la colère. Donc il faut un peu naviguer, et nous on navigue toujours un peu sur une ligne de crête qui est comment en parler de façon, effectivement, à favoriser la prévention. Parce qu'on pense quand même que c'est possible. Et puis, peut-être le dire aussi pour les personnes qui pensent au suicide, en général, elles sont très seules. C'est-à-dire qu'elles sont très isolées, parce qu'effectivement, elles sont face à une grande incompréhension. Comment est-ce qu'on peut penser à la mort? Je pense notamment aux jeunes, parce qu'il y a une espèce de contradiction énorme pour les adultes, en tout cas, de se dire bah la jeunesse, c'est la vie, c'est l'espoir, c'est l'avenir. Et comment est-ce qu'un jeune peut penser à la mort? Est-ce que c'est encore possible? Et du coup, souvent, on ignore, en fait, on peut ignorer les pensées suicidaires des jeunes ou les minimiser, parce que on n'arrive pas dans notre esprit à se dire que c'est possible qu'ils y pensent.
Et les jeunes, ils ont cette espèce de tabou intégré. Là, on a parlé des médias, mais c'est vrai que en parler, c'est pas seulement dans les médias, mais c'est aussi peut-être dans le cercle d'amis, le cercle familial.
Bah, c'est effectivement nous ce qu'on défend beaucoup, c'est de dire que chacun peut faire de la prévention du suicide en étant en gros, à l'écoute de son entourage. Donc, à la fois en étant bienveillant, en montrant qu'on laisse des portes ouvertes. Parce que parler d'envie suicidaire ou de pensée suicidaire, c'est quelque chose de très intime, de douloureux. On ne peut pas en parler à tout le monde, on ne peut pas en parler tout le temps. Et en fait, c'est assez difficile de trouver des interlocuteurs qui vont pouvoir prendre, en fait, une confession de ce type. Mmh. Du coup, nous, ce qu'on défend, c'est laisser les portes ouvertes, oser en parler, oser même prononcer le mot, dire le mot. On le défend auprès de l'entourage des jeunes, mais aussi des professionnels. On voit même chez les professionnels de la santé et du social, pour certains, ça peut être très difficile de se confronter à ce sujet-là.
Il y a souvent, vous me disiez, une sorte de jugement de valeur et une peur du jugement de valeur. Donc, ce qui fait que les personnes qui ont notamment les jeunes qui ont des pensées suicidaires, mais ils ont un peu honte. Donc, ils parlent pas, en fait.
Oui, et puis ils ont peut-être peur de pas être compris ou peur un peu de les deux réactions qui arrivent souvent. C'est soit la grande dramatisation, c'est-à-dire que tout de suite on va déclencher le plan les 15 psys, les interdictions, le fait de voir tout changer, ou au contraire le côté on fait comme si on n'avait pas entendu parce qu'on n'a pas tellement envie de voir. Donc il y a souvent ces deux réactions qui sont assez humaines entre guillemets. On n'a pas forcément envie d'être pris dans les questionnements de la personne ou de se sentir responsable s'il lui arrive quelque chose. Donc il va y avoir plein de réactions d'évitement. Du coup, c'est important de pouvoir au contraire parler de prévention et parler du suicide quand on n'est pas dans la crise. Et nous, c'est aussi ce qu'on essaye de faire. C'est-à-dire, en fait, on peut parler de ce sujet-là. C'est un sujet difficile, c'est un sujet douloureux. Mais en fait, il nous questionne tous. Donc on peut en parler comme on le fait maintenant, mais comme on le fait aussi dans des ateliers, dans les classes, à un moment où on n'est pas dans la crise. Ce qui fait que peut-être que si un jour on a un ami en difficulté, ou si un jour on est soi-même en difficulté, on peut repérer les signes avant de passer à l'acte.
Mmh. Là se repose la question de l'éventuel effet d'entraînement, parce que vous parlez peut-être à des jeunes qui n'en ont pour certains pas entendu parler, je ne sais pas à quel âge vous intervenez. Est-ce qu'il n'y a pas cette crainte de dire attention, on va en fait ouvrir, la question se pose pour d'autres choses, par exemple pour la pornographie ou des choses comme ça, est-ce qu'on ne va pas ouvrir un monde qui était jusqu'à présent inconnu pour certains de ces enfants?
Alors, nous, on intervient auprès des 15-29 ans et principalement quand on intervient dans les écoles ou dans les foyers ou semestres de motivation, on est plutôt auprès des 15-20 ans. Mmh. Ce qu'on constate, c'est qu'on a beaucoup plus d'ouverture de la part des jeunes que de la part des professionnels. C'est-à-dire que finalement, c'est un sujet qui leur parle, qui les questionne. Je pense qu'il y a à peu près 20% des adolescents qui ont déjà eu des pensées suicidaires. Des pensées suicidaires, c'est pas du tout des passages à l'acte. C'est le fait d'avoir à un moment donné pensé au suicide face à une difficulté. C'est des choses qui sont relativement courantes, alors que le passage à l'acte lui-même est quand même beaucoup plus rare. Du coup, le fait de pouvoir en parler, c'est plutôt soulageant. Le fait de se dire, ça existe, qu'est-ce qu'on peut faire si on s'inquiète pour un ami, c'est plutôt quelque chose qui va être bien perçu. Et évidemment, faut sécuriser la discussion. C'est-à-dire que nous, on n'intervient pas comme des béliers en ouvrant le sujet, en disant qu'est-ce que vous en pensez. On a effectivement des ateliers où on fait participer les jeunes. On intervient toujours avec un ou une jeune psychologue qui est là et qui peut, si le sujet touche trop un jeune, éventuellement le prendre à part du groupe pour discuter. Donc on met en place des choses pour que ce soit un espace bienveillant où on puisse en discuter sans être dans le jugement, sans être dans l'invective et pour faire en sorte que ce soit un moment de soulagement et d'intérêt, de réflexion pour les jeunes et pas un moment difficile.
Ça fait le change. Je rappelle que vous êtes donc la coordinatrice romande de Stop Suicide. Comment expliquer que autant de jeunes, vous dites 20%, 1 sur 5, a des pensées suicidaires? C'est quoi qui nourrit ça? C'est des difficultés scolaires, familiales? C'est des interrogations sur l'avenir, sur la vie?
Alors, je pense que les pensées suicidaires, elles font plutôt partie des interrogations existentielles de quand on grandit, quoi. Mais par contre, les envies suicidaires récurrentes, les pensées suicidaires qui viennent tous les jours, ou là, évidemment, la tentative de suicide, bah, là, c'est des moments où on doit beaucoup plus s'alarmer, c'est-à-dire quand on se fixe sur un moyen, quand ça devient invasif, c'est-à-dire qu'on contrôle pas les pensées. Donc ça, c'est un peu juste pour faire la différence. Tous les jeunes sont pas suicidaires, il faut pas s'alarmer dès qu'il y a une mention de pensée à la mort. Mais par contre, si c'est quelque chose de récurrent, répété, là, c'est là où il faut s'inquiéter. Mmh. Et je crois que j'ai perdu mon fil à votre question.
Ce qui m'interrogeait, c'est le pourquoi ces jeunes ont ces pensées-là, au fait.
D'accord.
Est-ce que c'est simplement un moment de la vie qui est peut-être difficile, qu'il y a l'adolescence, où il y a beaucoup de choses qui changent, des grands bouleversements, qui peut expliquer ça, ou c'est des pressions familiales, scolaires ou autres?
Déjà, il y a plein de parcours qui sont différents, donc on va pas faire un portrait type du jeune en détresse. Il y a plein de jeunes qui peuvent traverser différents types de difficultés. Il y a les difficultés qu'on connaît qui sont la violence ou les abus pendant l'enfance ou pendant l'adolescence, les conflits familiaux, les séparations, les divorces, les crises amoureuses. On sait que donc il y a plusieurs en fait facteurs de risque qui peuvent se cumuler. Ce qui est important à retenir, c'est qu'il y a jamais une seule cause. Des fois, on lit, il s'est suicidé parce que il a raté sa matu, il s'est suicidé parce que on l'a quitté. Pour nous, ce qui est important de voir, c'est que le suicide, c'est un processus, et du coup, c'est plutôt un cumul de difficultés où, à un moment donné, la personne, elle a essayé de s'en sortir de différentes manières, mais elle arrive plus à voir d'alternative pour ne pas souffrir. Donc, on parle vraiment de la souffrance. Et chez les adolescents, je sais pas si vous vous souvenez quand vous étiez adolescent, mais les émotions, on les ressent pas mal plus fortement, pour plein de raisons aussi biologiques, et aussi parce que c'est les premières fois. Donc on n'a pas forcément le recul d'avoir vécu plusieurs épreuves et de s'en être sorti. Donc du coup, quelque part, la souffrance, elle nous touche beaucoup plus fort. Et je pense que ça, des fois, c'est des choses que les adultes ne voient plus, qu'en fait, des choses qui peuvent leur paraître pas très graves, de leur point de vue de personne qui a 40 ans, peuvent être vécues comme très douloureuses par des personnes plus jeunes. Donc il y a à la fois effectivement des facteurs de risque qui sont des vulnérabilités qui viennent de l'extérieur, ou de l'intérieur, enfin voilà, des dépressions, etc. Et puis, il peut y avoir des événements déclencheurs, et souvent, on prend l'événement déclencheur pour la cause du suicide. Un événement déclencheur, ça peut être une humiliation. On parle beaucoup de harcèlement sur les réseaux sociaux, etc. Ça peut être une humiliation publique, ça peut être une rupture amoureuse, un décès, qui peut être un choc, mais c'est un peu l'image du vase qui se remplit. À un moment donné, il y a la goutte d'eau qui fait déborder le vase, mais le vase est déjà plein.
Sophie Lachaud, nous parlons du suicide avec vous ce matin. On vous retrouve juste après la pluie.
Je viens de la France où on danse la chenille, où on prend plus de caisses que des crash tests demi. J'ai des potes diplômés, d'autres qui ont pas lu de livres, qui sont sûrement sur un mur et dans les rues du centre-ville. Mon père a gravi l'échelle pour devenir ce qu'il voulait être. Ma mère est la ménagère à qui les publicitaires veulent la mettre. Je connais la campagne et ses gros sabots, où ça vole pas haut, les ragots et les oiseaux. Toujours autant de pluie chez moi. Toujours autant de pluie chez moi. Il fait quand même beau, il fait beau, il fait beau, il fait beau. Chez moi il fait beau, il fait beau, il fait beau, il fait beau. Chez moi il fait beau. Je viens de la terre du milieu, où y a plein de petits vieux, où le chômage et la tisane forment un cercle vicieux, où on critique les invités qui viennent de partir. C'est pas qu'on est lent, c'est qu'on prend notre temps pour réfléchir. Je viens de la classe moyenne, moyennement classe, où tout le monde cherche une place, une éclair dans le monospace. Je freestyle dans ma tête sur le bruit des essuie-glaces. Y'a la pluie en featuring dans toutes mes phrases. Toujours autant de pluie chez moi. Mais il fait quand même beau. Il fait beau. Il fait beau. Il fait beau, il fait beau, il fait beau.
soleil 40 jours par an. Tu peux passer la plupart de l'année à l'attendre. Je regardais par la fenêtre enfermée dans ma chambre. Je priais pour la fin de l'averse et aller faire de la rampe. Je connais que le bruit de la pluie, l'odeur du béton mouillé. Si je suis parti, c'est parce que j'avais peur de rouiller. Trempé, j'aurais jamais pensé que le mauvais temps finirait par me manquer.
Il fait quand même beau, il fait beau. Il fait beau, chez moi il fait beau. Il fait beau, il fait beau, il fait beau. Mais il fait quand même beau. Il fait beau, il fait beau, il fait beau. Chez moi il fait beau, il fait beau, il fait beau, il fait beau.
Toujours autant de pluie chez moi.
La pluie, c'était Orelsan et Stromae. On vous retrouve, Sophie Lachenot. Nous parlons du suicide et du fait qu'il faut désormais oser en parler avec vous ce matin. Il y a quand même ce chiffre impressionnant que vous m'avez donné, 40% de baisse ces 20 dernières années de suicide en Suisse. Est-ce qu'on explique ce résultat positif?
Alors, on peut l'expliquer de plusieurs manières, mais on n'a pas une étude qui prouve que c'est ça. C'est une baisse qu'on observe aussi au niveau européen, qui peut être liée en fait à tout le développement de la psychothérapie et de la psychiatrie, notamment le fait qu'il y a des meilleurs traitements pour la dépression, qui est quand même aussi un des facteurs de suicide importants. Donc il y a des études qui font le lien entre l'amélioration de l'accès aux soins. Il y a aussi tout ce qui a été fait en prévention, notamment les lignes d'aide qui existent. Je pense au 143, la main tendue pour les adultes, au 147 pour les jeunes. Et puis des méthodes de prévention, un peu comme ce qu'on fait. Et peut-être aussi le fait qu'il y a une forme d'ouverture, c'est-à-dire qu'on parle quand même aujourd'hui un peu plus quand même de prévention du suicide et plus largement de santé mentale. Si on pense dans les écoles, il y a 20 ans, il n'y avait pas forcément de conseiller scolaire, de psychologue scolaire. Donc il y a quand même des choses qui se sont mises en place depuis 20 ans et qui contribuent à cette baisse du suicide.
Mmh. Il y a quelque chose par contre qui a explosé ces dernières années, c'est le suicide assisté. C'est quoi votre position à Stop Suicide? Parce que c'est un peu paradoxal, j'imagine, pour vous.
Alors à Stop Suicide, on a une position qui est de dire que le suicide assisté concerne des personnes qui sont malades chroniques, plutôt âgées, en grande majorité. En fait, aujourd'hui, le suicide assisté concerne pas les jeunes en Suisse. Du coup, nous, on rentre pas trop en matière sur cette question.
Mais est-ce que ça brouille pas votre message, peut-être?
En tout cas, ce qu'on constate, et notamment, je pense, pour le suicide des personnes âgées, c'est que c'est compliqué de dire en même temps de dire qu'on assiste le suicide et qu'on prévient le suicide. Donc forcément, au niveau de la discussion porte beaucoup sur comment mourir dignement, est-ce qu'il y a un droit ou pas à mourir, etc. Et elle porte moins sur comment on fait pour soulager la souffrance des personnes qui se sentent mal au point d'avoir envie de mourir. Mmh. Donc pour nous, peut-être que là, le message, il est plus compliqué à faire passer. Et en même temps, cette discussion autour du suicide, elle a fait parler du suicide aussi.
Mmh, c'est ça, même dans les avis mortuaires, maintenant, on voit des gens... Alors, on voit aussi pour des suicides un peu classiques, c'est marqué « a décidé de partir », mais on voit aussi parfois des couples qui partent ensemble ou via exit comme ça, et qui l'écrivent noir sur blanc. Et ça aussi, c'est un tabou qui a sauté, parce que c'était inimaginable il y a peut-être 30 ou 40 ans encore.
Et c'est vrai que c'est très récent, ce qu'on a du mal à mesurer, ça va être un peu l'impact à plus long terme. C'est vrai qu'en 2015, il y avait... presque autant de suicides assistés que de suicides en Suisse.
Mmh. Donc des chiffres assez impressionnants. Est-ce qu'on peut, on parle de prévention, mais peut-être pour les gens qui nous écoutent, est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs? Est-ce qu'il y a des choses auxquelles il faut faire attention? Là, on repart peut-être plutôt sur les jeunes, mais pas que. Dans l'entourage de quelqu'un qui a des pensées suicidaires, mais qui n'en parle pas, est-ce qu'il y a des signes?
Alors, les signes, c'est toujours compliqué parce qu'on se retrouve beaucoup avec des personnes qui nous disent « ben moi, j'ai perdu quelqu'un » et puis on n'a rien vu venir. Mmh. C'est des choses qui arrivent. Parfois, on ne voit pas venir. Parfois les personnes cachent, effectivement, qu'elles ont un projet suicidaire. Mais quand même, en tout cas pour les jeunes, on retrouve souvent, et on dit toujours qu'on est plus intelligent après, mais on retrouve souvent des signes qu'on n'avait pas vus, qui sont peut-être ténus et qui ont été, distribués à des personnes différentes. Ce qui est essentiel comme signe, parce qu'il y a une grande liste de signes qui correspondent en fait à des signes de mal-être, c'est peut-être le plus grand, ce serait un changement de comportement où on reconnaît pas la personne. C'est-à-dire on se dit tiens, ça lui ressemble pas. Les parents d'ado nous disent c'est tous les deux jours.
Oui, c'est
mais mais c'est vrai quand même qu'un changement de comportement un peu radical, une personne qui d'un coup va se négliger, va couper les liens forts, par exemple se disputer un peu d'un coup avec tous ses meilleurs amis, plus rompre avec des personnes qui lui sont proches. Une personne notamment chez les jeunes hommes qui va faire preuve de beaucoup d'agressivité d'un coup alors qu'elle n'était pas forcément agressive. Et puis même un signe un peu étrange, c'est quelqu'un qui pourrait avoir été dans une phase très sombre ou très dépressive pendant longtemps et qui d'un coup a l'air d'aller beaucoup mieux. Et en fait, on ne comprend pas pourquoi. Et ça peut être quelqu'un qui est en train de se détacher en fait. Après, chez les jeunes, on retrouve souvent des dons de ses affaires, enfin voilà, donner ses affaires à d'autres personnes, et puis tout simplement des phrases, c'est-à-dire j'en peux plus, je sers à rien, c'est pas toujours je pense à la mort, c'est pas toujours aussi explicite, mais ça peut être le fait de se sentir inutile, un fardeau pour ses proches, etc. Donc des phrases comme ça, ça doit quand même alarmer. Et au niveau des comportements, c'est tout ce qui est excès et répétition. C'est-à-dire que le professeur Pomereau, je l'entendais parler, c'est un psy assez connu en France, il parlait de la différence entre l'écart de conduite, la glissade et le grand écart. Et en fait, c'est normal d'expérimenter, voilà, de faire, on va pas s'alarmer dès que quelqu'un a trop bu une fois. Par contre, le fait de la glissade, ça peut être trop boire et puis par exemple prendre le volant. Bah, c'est une glissade, c'est-à-dire c'est un écart de conduite une fois, ça ne veut pas dire qu'on va forcément hyper mal, mais ça peut avoir des conséquences très dangereuses. Et puis le grand écart, bah, c'est d'être systématiquement au bord du coma éthylique ou en coma éthylique, de prendre régulièrement le volant alors qu'on est ivre, de prendre des risques, d'avoir des conduites à risque qui sont répétées et excessives. Et si vous demandez aux jeunes, en général, ils savent très bien qui, dans leur groupe d'amis, a des conduites répétées et excessives qui font parfois un peu peur même à ses amis.
Est-ce qu'il y a des communautés plus touchées? On parle souvent des jeunes gays, lesbiennes. Ça, c'est des gens qui sont plus touchés, qui ont plus d'envie suicidaire que d'autres.
Alors, il y a effectivement des facteurs de risque qui sont plus forts, notamment. Il y a plusieurs publics cibles. Il y a aussi toute une liste, mais effectivement, on parle souvent aussi des jeunes gays, lesbiennes et trans, parce qu'on sait que ces jeunes sont plus à risque suicidaire, parce que quelque part ils sont enfermés dans un double silence. C'est-à-dire que si ils questionnent sur leur orientation sexuelle et qu'ils se sentent mal parce qu'ils ont peur de la non-acceptation de leurs proches, parce que c'est difficile de pas être dans la norme, pour plein de questions. Le problème, c'est que s'ils révèlent les pensées suicidaires, ils risquent de faire leur coming out en même temps. Mmh. Et du coup, ça devient difficile de parler, en tout cas, à ses plus proches.
Ils parce veulent pas sortir.
En général, quand on dit trouver du soutien, on va trouver du soutien auprès de qui? De sa famille, de ses amis. Et en fait, c'est justement les personnes à qui on peut pas parler si on a peur de faire son coming out. Donc du coup, c'est pour ça que c'est aussi important d'avoir des espaces qui sont safe, type le groupe Totem à Genève ou Voguet, des espaces où on peut venir ou appeler et où on ne sera pas questionné par rapport à son orientation et où on part, enfin, ce sera sécure et on ne sera pas jugé par rapport à ça.
En termes de prévention, qu'est-ce qui marche?
Alors, ce qui marche, c'est de faire plusieurs choses différentes, d'agir sur plusieurs fronts, évidemment. Donc ça peut être de faire des campagnes de sensibilisation, de développer l'accès à l'aide, de développer aussi les services de soins gratuits et accessibles pour les jeunes, et puis de proposer différents types d'aide. On n'a pas, et notamment les ados, ils sont pas tous à l'aise avec un suivi psychothérapeutique classique. Donc il y a plein de choses qu'on peut mettre en place, notamment l'engagement, ça peut être aussi un facteur de protection. Donc nous on essaye d'agir sur plusieurs fronts. Récemment, là, il y a une étude qui nous a assez conforté dans notre action, qui a montré, qui a comparé en fait des mesures de prévention à l'école. Donc, il y en avait 4. Il y avait juste mettre des posters un peu sur le bien-être et la santé mentale. Il y avait faire passer des questionnaires systématiques où on demandait aux élèves s'ils avaient eu des pensées suicidaires. Il y avait former les professeurs à la détection des signaux d'alerte. Et le dernier, c'était des activités, des ateliers auprès des jeunes basés sur des jeux de rôle, où c'est eux qui choisissaient les thèmes et où il y avait des mises en scène autour de problèmes qu'ils choisissaient, qui pouvaient être du harcèlement, qui allaient jusqu'aux pensées suicidaires. Mmh. Et donc ça a été testé auprès de 10 000 jeunes, c'est une grosse étude européenne, ce qui s'appelle SAIL. Et la conclusion, c'est que déjà la méthode de prévention la plus efficace, c'était d'aller directement parler aux jeunes, qu'ils étaient prêts à en parler et que ça favorisait en fait après la détection, l'action. Et ça faisait baisser de 50% les pensées suicidaires et les tentatives de suicide. Donc il y a un effet vraiment tangible. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que toutes les mesures de prévention avaient un effet. Même la question des posters qui paraît un peu inutile comme ça, en fait, rien qu'ouvrir la porte ou avoir l'école qui travaille autour de ce sujet-là, ça a permis de faire baisser en tout cas les pensées suicidaires.
Merci beaucoup Sophie Lochet d'être venue nous voir ce matin. Peut-être juste un mot, quelqu'un qui aurait des pensées suicidaires, un numéro à appeler?
Alors, on est en Suisse, donc il y a des numéros différents par canton. Du coup, ce que je vous conseille, c'est d'aller sur le site stopsuicide.ch. Il y a une rubrique besoin d'aide et en fonction de si c'est une aide d'écoute, d'urgence ou autre, vous pouvez trouver le numéro qui convient.
Merci beaucoup Sophie Lochet. Vous êtes coordinatrice de l'association romande Stop Suicide et vous avez participé au congrès du GREP sur la thématique du suicide. Osons en parler. Ça se passera donc les 2 et 3 mai prochains au Casino de Montmenon à Lausanne et vous interviendrez vous personnellement jeudi 3 mai à 16h35, faut être précis. Bonne suite de journée.
Merci beaucoup.
Et merci à Fatmir Blakay qui était à la technique avec nous ce matin. Demain, nous parlerons des chiens et de philosophie, tout un programme. Mais là, tout de suite, vous avez rendez-vous avec Laurence Bizang et Lady Coder. Je vous souhaite une excellente suite de journée.
Tribu, Julien Magnolet.